Bonjour à chacun. On va continuer le temps d'adoration sous une autre forme par notre choix de nous placer face à Dieu, face à sa parole. Et nous avons fait une série sur les derniers mots de Paul, la dernière lettre qu'il a écrite. Et ce matin, je vous propose qu'on voit les derniers mots de sa dernière lettre. Paul, dans cette lettre, et Philippe, c'est dans la présidence, on a cité deux textes, là c'est bien Philippe, en parlant de difficultés, de tous ceux qui veulent vivre pieusement, etc., toute la difficulté de la vie chrétienne, et c'est quelque chose que l'on trouve globalement dans la Bible. Jésus a quand même fini exécuté, Pierre et Jacques ont fini exécuté aussi, Jean a été exilé, Timothée a été mis en prison, Paul a été emprisonné, libéré, puis arrêté encore une fois et exécuté. Et exécuté par un empereur fou que Paul demandait de respecter, parce que autorité mise en place par Dieu. Donc, on a globalement cette certitude, cette réalité que la vie dans ce monde est difficile. Et on garde cette promesse de Jésus. Vous aurez à souffrir bien des afflictions dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette idée de voir ce que la parole de Dieu dit sur la vie dans ce monde et nous encourage dans ces termes. Apprenons à vivre les bénédictions divines dans l'épreuve, c'est-à-dire le soutien de Christ et l'entraide fraternelle. Et nous allons lire donc à la fin de la deuxième épître à Timothée. La fin de la deuxième épître à Timothée. Si vous avez l'habitude et si vous aimez suivre, vous pouvez suivre avec moi de Timothée 4. Et puis, si vous aimez suivre encore, gardez le texte sous les yeux. On va y revenir régulièrement. Ça tient ou ça tient pas là ? À toi le test. Ça a l'air de tenir. 2 Timothée 4, et je vais lire déjà à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour mon ministère. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Et je m'arrête là pour l'instant. On va parler des besoins personnels de Paul. Et alors que la mort approche, Paul ressent sa solitude. Il demande à Timothée de le rejoindre au plus vite à Rome. Et je rappelle, quand il dit ça, qu'en raison d'un mouvement de grève à EasyJet, le trajet sera un petit peu rallongé. Plus sérieusement, il y a 2 mois de trajet de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, jusqu'à Rome. Et il faut rajouter le temps que met la lettre. Et là aussi, les courriers électroniques étaient assez peu développés. Donc Paul est seul, il vit cette solitude. En fait, il y a 3 raisons de sa solitude. Donc déjà, parce qu'il est en prison, et il doit compter sur l'assistance de ses proches pour l'aider simplement à survivre. Deuxième raison, c'est qu'il est abandonné par Démas. Démas, on l'a déjà vu dans le Nouveau Testament, c'est un compagnon de Paul, il l'a accompagné dans les voyages précédents, il l'a même soutenu dans son premier emprisonnement. Colossiens chapitre 4, Philémon. Mais ici, il a abandonné son ami pour des raisons que Paul juge non valables. On ne sait pas exactement pourquoi, la Bible est toujours très sobre. Peut-être est-ce amour du confort, peur de la persécution, peut-être d'autres priorités, peut-être des questions de finances. Mais le verbe « abandonner » est fort. Il n'est pas dit qu'il a renié la foi, mais il a fait un mauvais choix, parce que dans un moment critique, il n'a pas soutenu son ami. Et puis Paul est seul parce que certains amis sont partis, et là pour de bonnes raisons. Tychique a été envoyé en mission, et peut-être même il pourra remplacer Timothée lorsqu'il viendra auprès de Paul. Et dans cette situation pénible, Paul demande 2 aides complémentaires. Timothée, auprès de lui, il demande la présence de son ami, de son enfant spirituel, et aussi des livres. Alors, on ne sait pas Quels sont ces livres ? Probablement d'extraits d'enseignements, des paroles de Jésus, des enseignements que Paul veut donner, soit même avec les parchemins, une portion de l'Ancien Testament. Donc il a ce désir de contact humain, et puis continuer à lire, méditer, nourrir son esprit, nourrir sa pensée, sa foi. Je ne sais pas quelle image vous avez de l'apôtre Paul, mais en tout cas on le voit très humain dans ce cadre-là, et peut-être pas l'image que certaines autres lettres peuvent laisser imaginer. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage ? Je notais un avertissement et deux encouragements. L'avertissement des masses. Bien commencer la vie chrétienne ne garantit pas de bien la finir. Paul disait, juste avant, il écrivait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Il a tenu jusqu'au bout et il en est reconnaissant. Alors bien sûr, si on reprend l'image de la course, bien commencer est important. J'ai grandi avec les fables de La Fontaine, le lièvre à la tortue, il faut partir à point. Et on peut encourager les jeunes à pleinement utiliser leur jeunesse pour connaître Dieu, pour apprendre à le servir. Magnifique. Mais bien partir ne suffit pas pour gagner la course. Il faut persévérer, il faut continuer, il faut finir. Démas a, semble-t-il, perdu de vue ce qui est essentiel. Il a oublié de regarder au but. Et il s'est installé avec les mauvaises priorités, installé dans ce monde, installé dans cette vie. En lisant cela, ne nous croyons pas plus forts que ces personnes tellement motivées. Démas a suivi Paul, ce qui était immense. Mais il s'est essoufflé en quelques années. Ne nous croyons pas à l'abri de la tentation de vouloir profiter de cette vie et avec le risque de laisser tomber, sinon la foi, au moins le service, la vie d'église, le témoignage. Et là, ce que Paul déplore, ce n'est pas tant le choix, mais la raison du choix. Ce n'est pas l'absence de Démas, mais c'est l'amour pour le siècle présent. Mon confort, mes droits, mes... les multiples occupations qui ne vont plus me laisser de temps pour la vie d'église, pour la lecture de la parole, pour le service. Et en tout cas, à titre personnel, ce sont des éléments qui me font peur parce qu'on a un monde qui a tellement à offrir. Il y a tant de choses pour nous occuper, pour nous distraire, pour nous donner des plaisirs faciles, superficiels. Et puis, on est aussi dans un monde qui est très exigeant, entre le travail, les enfants, les clubs, les associations, tout ce qu'il faut faire. Et il y a de bonnes et même de très bonnes choses qui peuvent petit à petit prendre la place de Dieu et nous couper des bénédictions de Dieu pour notre foi. Bénédictions liées à l'Église, toute la communion fraternelle, ce qui nous aide à grandir, simplement. Les temps d'enseignement, les temps même de scène, lorsqu'on se rappelle ce que Christ a fait. Et puis aussi qui nous coupe de ces temps de piété personnelle. On parlait de culte tout à l'heure dans l'introduction, de ce qu'on peut vivre à la fois en Église et ce que l'on vit personnellement, lecture de la Bible, la prière, le temps pour creuser l'une ou l'autre idée. Un encouragement. Paul désire revoir Timothée et Marc. Et il apprécie ce genre de soutien. Et nous avons besoin les uns des autres. Dieu a voulu l'Église pour que nous puissions nous encourager, pour que ses enfants s'encouragent mutuellement. Voilà ce qui est dit dans un autre livre, l'Épître aux Hébreux, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Donc bien sûr, on ne va pas couper tout contact avec le monde extérieur pour se retrouver toujours entre chrétiens. Ce serait absolument contre tout ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Mais on ne veut pas tomber dans l'excès inverse. Et ce matin, chaque personne est un encouragement pour les autres. Vous êtes chacun encouragement pour les autres, déjà par la présence. Encouragement, motivation à continuer avec Dieu et à rester fermement attaché à Christ. Là aussi, les discussions d'avant ou d'après-culte sont précieuses, peuvent être des sources d'encouragement. Et on peut aussi partager les défis, les joies, les tristesses. Un autre encouragement, le verset 11, lorsque Paul dit de Marc, il m'est très utile pour le ministère. petite phrase dans les salutations qu'on lit un peu rapidement. C'est une perle, ce texte. Marc, parfois appelé Jean-Marc ou Jean, dans les Actes des Apôtres, apparaît dans d'autres livres, et notamment justement dans ce livre des Actes, lorsque Paul commençait sa mission, et il accompagnait Paul et Barnabas lors du premier voyage missionnaire de Paul. Mais il les a abandonnés. Il n'a pas supporté les tensions immenses liées à ce voyage. Et au voyage suivant, Paul n'a pas voulu le reprendre. Il n'a pas voulu reprendre celui qui les avait abandonnés. Et c'est une situation qui a causé une tension dans l'équipe entre Paul et Barnabas. Une telle tension qu'ils se sont séparés. Donc, Marc avait été vraiment la source de difficultés pour l'équipe. Et du coup, Barnabas a pris Marc pour une mission moins difficile et Paul est allé avec quelqu'un d'autre. Quelques années plus tard, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et là, si je résume, on a un échec personnel de Marc, des relations difficiles entre Paul et Marc. Mais plusieurs années plus tard, Marc est utile, il est précieux. Des erreurs, des échecs sont possibles. Mais le retour à Dieu n'est jamais fermé. Peut-être ici, moi je ne vous connais pas bien, ou pas du tout même, certains ont connu échec, déception. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui a fait une erreur dans sa vie, une erreur qui le hante encore, une pensée qui reste, qui paralyse, une pensée qui engendre une telle honte qu'on n'ose même pas prier, qu'on n'ose pas servir, qu'on n'ose pas parler de sa foi. La grâce de Dieu, ce pardon de Dieu, le fait que Dieu est toujours prêt à relever la personne qui tombe, est une réalité. Lorsqu'une personne reconnaît ses fautes et s'approche de Dieu, Dieu relève cette personne. Et Marc en est l'exemple. Et c'est particulier de voir que Marc a été aussi le secrétaire de Pierre, hein, Pierre 5,13. Marc a abandonné Paul et Barnabas alors qu'ils risquaient leur vie. Pierre a renié Jésus avant la croix. Ah, ils ont dû avoir des choses à partager sur la grâce de Dieu. Ils sont l'un et l'autre revenus à Dieu. Ils ont pu l'un et l'autre servir, s'engager pour Dieu, malgré une immense chute. Ils ont pu vivre une pleine communion avec Dieu, une pleine communion avec les autres chrétiens. Oui, ils ont chuté. Oui, c'est grave. Dieu les a relevés. Et même, il les a tellement relevés qu'il les a choisis pour une mission totalement unique, hein, et vraiment spécial, c'est-à-dire de rédiger ce que nous appelons le Nouveau Testament. Marc pour l'évangile de Marc et Pierre pour les épîtres de Pierre. Il n'y a même pas de piège. Mais Dieu leur a vraiment donné, les a relevés, leur a donné cette mission particulière. Nos chutes, nos erreurs sont parfois graves, parfois sérieuses. Il peut y avoir des conséquences extrêmement lourdes qu'on ne doit jamais minimiser. Mais aucune de ces fautes ne doit nous empêcher de revenir à Dieu, ne doit nous empêcher de demander pardon, de recevoir ce pardon et de continuer la marche avec Dieu. Ce qui peut nous gêner, c'est notre orgueil, l'absence de volonté de revenir à Dieu, le manque de foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, lui qui a payé pour les fautes des siens. Alors peut-être en entendant cela, il y a une question personnelle qui vous reste et je vous encourage à vous approcher d'un des responsables de l'Église pour lui parler en toute confidentialité s'il y a encore un poids qui reste et peut-être quelque chose qui vous gêne et qui vous empêche d'aller de l'avant. Il ne faut pas rester avec ce poids, cette blessure. Dieu est là pour guérir ceux dont l'âme est blessée et qui se tourne vers lui en toute humilité et confiance. Marc m'est très utile pour le ministère. Une perle dans ce texte. Et puis une toute dernière remarque sur ces quelques versets avant de continuer. Paul a demandé des parchemins, il a demandé des livres. Oh, il a d'immenses connaissances, Paul. Mais malgré cela, malgré ses connaissances, même si lui, il a eu des révélations spéciales et uniques, il a eu un enseignement tout particulier pour enseigner les païens, et bien malgré cela, Il avait besoin de lire, de méditer, de nourrir sa foi, de nourrir sa vie spirituelle. Je dirais, peut-être de manière un peu provocante, ne soyons pas plus spirituels que Paul. N'ayons pas peur de lire. Lisons attentivement la Bible, les aides qui existent, les ouvrages qui nourrissent notre foi, qui sont adaptés à nos besoins. N'ayons pas peur de lire. Je pense que, en venant ici, dans une église dont le pasteur, je crois, n'est pas totalement fâché avec les livres, c'est peut-être quelque chose que vous avez entendu. Il y a juste deux pièges quand on parle de la lecture. Ce n'est pas un concours de lecture. On va lire selon notre temps, selon nos capacités, peut-être choisir l'un ou l'autre sujet. Certains sont de très grands lecteurs, d'autres de petits lecteurs. L'idée n'est pas de se comparer, mais de s'encourager à lire. Et puis, le deuxième piège, je dirais, c'est lisons, même si nous n'avons pas envie de lire. On peut peut-être moins lire dans ces cas-là, mais c'est beaucoup plus qu'un simple loisir. Et on voit le besoin que Paul en avait, ça nous encourage à nous aussi ne pas avoir peur de lire. Je continue, et pour avoir donné quelques nouvelles, Paul évoque ses difficultés. Verset 14, voilà ce qu'il dit. « Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message, pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. » Paul évoque toutes ces difficultés, il évoque Alexandre qui lui a fait du mal. C'est peut-être l'homme qui a contribué à son arrestation, c'est peut-être le principal accusateur à son procès. Mais il ne cherche ni à se calomnier, ni à se venger. Il reprend cette pensée qu'on retrouve aussi dans les psaumes, que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Il abandonne toute idée de vengeance à Dieu. Puis il parle de son procès. À l'époque, il y avait deux comparutions. L'une, une sorte d'examen préliminaire pour établir les faits, et là Paul était tout seul, et puis une seconde qui devait déboucher sur le verdict, et il sent bien que ce sera la mort. Et malgré sa solitude, Paul prie pour que Dieu pardonne à ceux qui l'ont abandonné. Même dans la souffrance, il a toujours ce regard vers Dieu, ce regard magnifique. Et puis, il dit aussi, « Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. » Quatre remarques. Paul n'est pas dépressif, il n'est pas écrasé. Il est triste et comme nous, il subit les coups durs, il souffre lorsqu'il y a des circonstances difficiles. La deuxième remarque, c'est que malgré tout, il garde confiance en Dieu. On a parlé tout à l'heure des psaumes avec le cri et Dieu qui délivre, il s'attend encore à Dieu. Il sait que Dieu le délivrera. Oui, il sera, il le pense, et cela se verra exact, condamné à mort. Mais il sait très bien que ce ne sont pas les circonstances qui vont vaincre. Même la mort ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu. Il sait que Dieu va l'aider à surmonter, à traverser les circonstances les plus difficiles. Parfois, Dieu intervient, et parfois, Dieu intervient pour changer la situation. Parfois, Dieu n'intervient pas dans la situation, mais il intervient pour travailler en nous, pour que nous traversions l'épreuve. Troisième remarque, il dit « Dieu me sauvera ». C'est étonnant parce que, mais il n'est pas déjà sauvé. En fait, Paul nous rappelle que le salut est passé pour le chrétien. Lorsqu'une personne se tourne vers Dieu, lorsqu'elle reconnaît ses fautes et son incapacité par elle-même à vivre comme Dieu le demande, et lorsqu'elle souhaite que Dieu transforme sa vie, elle reçoit ce salut. Elle est délivrée, elle reçoit le pardon. C'est fait. Mais le salut n'est pas total. Le corps reste touché par la mort. Les chrétiens, comme les autres personnes, sont sujets à la maladie, sont sujets au handicap, et nous connaissons aussi un cœur en nous qui est loin d'avoir atteint la perfection. L'œuvre de salut n'est pas encore terminée. En fait, si je donnais une image, ça ressemble à notre vie physique, mais c'est à l'envers. Je vais m'expliquer, parce que ça ne veut rien dire sinon. Quand on prend un nouveau-né, hein, les bébés qui sont de toute façon forcément très choux, mais c'est un nouveau-né qui est magnifique, peut-être pas juste après la naissance, on va dire un ou deux jours, quand c'est le temps de se remettre. Hein, mais c'est toujours, on dit c'est très beau, voilà, c'est, oh, on voit cette vie qui est là. Mais il se dirige vers la mort. Tout déjà en lui est en œuvre. Et on sait qu'il va se diriger vers la mort, même s'il va se développer. Eh bien, pour la personne chrétienne, c'est ça, sauf que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que la personne chrétienne va vieillir et on sait qu'elle va mourir, comme l'enfant se développe, mais tout déjà dans la personne chrétienne est en œuvre pour la vie. Même si on ne le voit pas, tout est déjà là pour que cette personne vive et puisse avoir cette vie éternelle avec un corps transformé, parce que c'est Dieu qui le donne. Et à la fin des temps, on aura ce nouveau corps, on ne subira pas la maladie, la mort, la tristesse. Tout est déjà à l'œuvre. Il sait que le Seigneur le sauvera. Et puis Paul montre le but, l'entrée dans le royaume céleste. Le but, la maison. Paul sait que c'est le meilleur. Il y a une route qui est longue, une route qui est difficile. Mais au bout, il y a le vrai repos. Et c'est ce qui encourage Paul. Et Paul, c'est, il le dit lui-même, il dit qu'il est un vieillard, il est abandonné de tous, il est promis à la hache du bourreau. Et dans cette situation terrible humainement, il est encouragé. Parce qu'il voit plus loin que les circonstances. Il voit le but. Dieu tiendra ses promesses et il sauvera les siens. Et là encore pour nous, je vois un avertissement et deux encouragements. L'avertissement, pas de vengeance. Dans nos détresses, dans nos difficultés, lorsque nous sommes trahis, gardons cette attitude de nous en remettre pleinement à Dieu. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas porter plainte hein, lorsque l'affaire relève de la justice. Si j'ai été cambriolé, je vais porter plainte, question de justice terrestre. Mais tout ce qui est vengeance, cela ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui vais rendre la justice. Et c'est vite dit, hein, comme ça, le dimanche matin. Mais c'est difficile, le pardon. Parce que je renonce à tirer avantage de ce qui m'est arrivé. Le pardon, c'est une question de confiance. Je laisse le soin à Dieu de rendre la justice. Et puis je me souviens aussi que je suis le premier à avoir besoin de pardon. Cela peut aussi m'aider. L'avertissement. Le premier encouragement, Paul sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Il peut s'appuyer sur cette présence de Dieu, sur l'assurance de sa fidélité. Parfois, l'encouragement passe par d'autres êtres humains. C'est un des bienfaits de la vie de l'Église. Parfois, par d'autres canaux. Et on n'a pas de contradiction chez Paul qui demande à la fois l'aide humaine, notamment de Timothée, de personnes autour de lui, mais qui compte aussi sur Dieu. Et n'ayons pas de fausse spiritualité qui fait croire « Oh, moi, c'est bon, j'ai besoin de personne. » Je ne sais pas si c'est une telle confiance en Dieu ou si c'est un mélange d'orgueil, d'aveuglement et d'individualisme. On a besoin les uns des autres. Mais en même temps, ne plaçons pas d'attentes démesurées sur les êtres humains qui sont faillibles. On a besoin, cela nous aide. Mais les êtres humains ne vont pas remplacer Dieu. On a confiance en lui. Il nous soutient à chaque étape de notre vie, même les plus difficiles, parce qu'il l'a promis. Et on a besoin de lui. Si je devais encore une fois donner cette image, dans notre vie, si je comparais ça à un voyage sur une sorte de barque, pas le gros bateau qui va de toute façon tout pulvériser, mais la barque un peu fragile, et on est sur une mer avec certains rochers, et il y a le rocher de l'orgueil hein, qui peut nous faire du mal, parce que sous prétexte de spiritualité, je n'ai pas besoin des autres. Ça va, Dieu me suffit, et autosuffisant. Et c'est plutôt de l'orgueil. Je ne cherche aucune aide. Et puis l'autre rocher qui peut aussi nous faire du mal, c'est que j'attends tout des êtres humains. Je m'attends à ce qu'ils répondent parfaitement à mes besoins. Oui, comptons les uns sur les autres. Mais souvenons-nous que nous sommes tous encore imparfaits, en route vers Dieu, mais enfin vers son royaume, mais éloignés. Et puis tout au long encore de ce chemin, tout au long de ce voyage dans cette barque, il y a le traître rocher du doute, du découragement, lorsque les circonstances sont défavorables. Un rocher qui peut faire des dégâts lorsqu'on perd son travail, lorsqu'on est touché par le deuil, ou alors lorsque les bonnes nouvelles attendues ne viennent pas et sont remplacées par les mauvaises nouvelles. Dans l'épreuve qui touche nous-mêmes, les enfants, les parents, les amis, ce rocher du doute. Dieu tient ses promesses. Et l'encouragement numéro 2, c'est que nous choisissions résolument chaque jour de nous appuyer sur les vraies promesses de Dieu. Alors pourquoi je parle des vraies promesses de Dieu ? Parce qu'il y a des fausses promesses de Dieu. Vous connaissez les fausses promesses de Dieu ? Je les ai subies. Juste après mon mariage, je suis passé par une période de chômage de plusieurs mois. Et on m'a entouré, j'étais assez jeune chrétien encore, et j'avais deux, trois choses que je n'avais pas saisies. On m'a dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, Dieu ne va pas laisser son enfant comme ça, et il va faire en sorte que tu aies du travail. Et j'ai commencé cette période en ayant la certitude que Dieu allait répondre en me donnant du travail. Alors Dieu a répondu, mais il ne m'a pas répondu comme ça. Et je suis resté plusieurs mois avec cette certitude que Dieu devait de toute façon m'aider. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Je m'appuyais sur une fausse promesse de Dieu. Donc appuyons-nous, oui, mais sur les vraies promesses de Dieu. La certitude que Dieu reste souverain. Rien ne lui échappe. Quoi que je traverse, je peux être assuré que Dieu n'est pas débordé, qu'il est présent. Je peux être assuré qu'il fixera les limites de l'épreuve, même si peut-être moi je ne les fixerai pas de la même manière. Je sais aussi que Dieu a des buts plus grands que les miens. Moi, je prie pour sortir de l'épreuve. Lui, il cherche à me faire ressembler à Christ. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais parfois, il y a un petit détour. Il cherche à transformer mon cœur, il cherche à transformer mon caractère, il cherche à transformer mes pensées. Et vous ne me connaissez pas, hein, mais vous n'imaginez pas l'ampleur du boulot. Dieu a d'autres buts, des buts plus grands. Alors oui, prions pour sortir de l'épreuve, prions pour être délivrés, bien sûr. Mais prions aussi pour que Dieu agisse en nous. Prions pour qu'il nous fasse la grâce de continuer à être accrochés à lui dans la souffrance, et à certains moments c'est juste ça. Hein. Prions pour que Dieu nous transforme, parce que nous avons besoin qu'il agisse en nous. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je suis sûr que vous avez encore besoin d'être transformé par Dieu. Et je suis sûr que quoi, où que vous en soyez, l'Esprit de Dieu a suffisamment de force et de puissance pour vous transformer. Et puis Dieu promet aussi qu'au bout de la route, il y a l'entrée dans son royaume et dans sa présence. Même si humainement le pire se produit, nous ne sommes pas vaincus. Dieu n'est pas vaincu. La mort de Jésus à la croix nous assure de son pardon. C'est une vraie promesse, le vrai pardon. La résurrection de Jésus garantit que la mort est bien vaincue et que la destinée de l'enfant de Dieu, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas qu'on vieillit, qu'on perd nos moyens puis qu'on meurt, mais qu'on est dans son royaume, dans sa présence, dans sa paix, avec sa joie. Voilà pourquoi, alors qu'il est aux portes de la mort, alors qu'il est à la fin de sa vie et alors qu'il souffre de beaucoup de manières, Paul peut rester serein et qu'il peut affronter cette dernière épreuve dans la foi. La mort est un ennemi, oui, c'est une épreuve, mais l'ennemi est vaincu, et l'épreuve se traverse dans les bras de notre Seigneur, de notre Sauveur, celui qui a vaincu le mal. Et je termine un peu plus brièvement avec les salutations finales que je lis à partir du verset 19. Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore, Eraste est resté à Corinthe, quant à Trophime, il était malade et je l'ai laissé à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. Et là, on a un récapitulatif des thèmes que l'on a vus. Paul cite des personnes qui sont en contact avec lui et il montre encore une fois qu'il n'était pas indépendant, pas autosuffisant. Et il a lui aussi besoin d'une communauté, besoin de personnes autour de lui. Et son enseignement est finalement validé par son exemple. Le cas de Trophime, aussi laissé malade, est révélateur des difficultés que l'on connaît sur cette terre parce que nous sommes humains. Pendant un temps, Paul a pu systématiquement guérir toutes les personnes qui venaient à lui. Et de cette manière, Dieu voulait montrer qu'il est bien apôtre au sens fort du terme. Dieu voulait authentifier son ministère, lui qui est porteur de la révélation de Dieu. Finalement, 13 des 27 livres du Nouveau Testament sont de la plume de Paul, directement ou indirectement. Quand je dis la plume, des fois il a un secrétaire. Mais Paul est l'auteur de 13 des 27 livres. Et il fallait que ce soit authentifié, qu'on montre qu'il est bien porteur de la parole de Dieu par tous ses miracles. Tout ce qu'il a fait pendant un certain nombre d'années où il y avait des guérisons systématiques. Les linges qui avaient touché son corps, on les appliquait sur les malades, tout s'était guéri. Et ce sont des miracles uniques parce que Dieu voulait authentifier sa parole. Mais une fois que cela a été authentifié, à la fin de sa vie, Paul ne pouvait plus guérir. Dieu avait fait cette œuvre qu'il voulait à travers Paul, il avait pu authentifier sa parole et ces dons extraordinaires ont disparu. Et il y a ce rappel que Dieu ne délivre pas toujours. Paul lui-même sera exécuté, Trophime est malade. Dans la première lettre à Timothée, Timothée a des soucis d'estomac. Hein. On connaît peut-être ce verset, des fois on aime bien le citer au moment où on commence à servir à boire. « Bois un peu de vin à cause de tes soucis d'estomac. » Mais Paul n'est pas en train de dire « Vous pouvez boire du vin, allez-y. » Il est en train de dire « Tu es malade, je ne peux pas te guérir. » Prends ton médicament. Bon, il s'avère que c'est du vin, il y a pire. Mais c'est aussi probablement des seuls médicaments qui existent. Il dit, prends un peu de vin, prends ce médicament, parce que c'est la seule chose qu'on ait pour te soigner. Et donc il l'encourage, dans la souffrance, à utiliser les moyens humains que l'on a. Et ce n'est pas juste pour dire, allez-y, vous pouvez boire un petit coup. C'est beaucoup plus loin que ça. Et on parle de cette souffrance et des moyens limités que l'on a, parce que le vin devait le soulager aussi de manière limitée. Surtout qu'il y a un peu de vin. Et puis, le dernier verset, « Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce soit avec vous. » On a besoin que le Seigneur nous accompagne, besoin de sa grâce transformatrice. Et le témoignage le plus fort qu'un chrétien puisse rendre, c'est de rester fidèle, malgré la difficulté, c'est de prier pour ses adversaires. Ne pas chercher à se venger, rester fidèlement attaché à Dieu, confiant dans ses promesses. Je conclus. Apprenons à vivre les bénédictions divines dans l'épreuve, c'est-à-dire le soutien de Christ et l'entraide fraternelle. La conclusion de cette dernière lettre de Paul prépare l'Église du 1er siècle et l'Église de tous les temps à affronter les difficultés de la vie dans un monde qui est déchu, dans un monde qui est touché par le mal. Paul souligne la réalité de l'épreuve, mais aussi la réalité du soutien de Dieu, de Christ. On a un Dieu qui est toujours proche des siens. Il nous rappelle aussi l'importance de savoir nous entraider. Et parfois, justement, le secours que Dieu accorde passe par d'autres enfants. Peut-être on est parfois nous-mêmes exaucement des prières des autres, voire exaucement de nos propres prières. Et puis, d'autres viendront aussi à d'autres moments nous secourir. Le testament spirituel de Paul s'achève ici et il encourage à continuer le témoignage dans un monde difficile. Il avait parlé, le début du chapitre 4, à ce cri, prêche la parole. Il faut que ce soit un enseignement qui soit donné, une parole qui soit annoncée. Je suis réjoui d'entendre tout ce qui se passe dans le cadre des cours Alpha ici. Et puis, il donne aussi quelques clés pour qu'on ait un vrai témoignage par notre vie, y compris dans les moments difficiles, avec cette entraide fraternelle, cette confiance dans l'œuvre du Seigneur, qu'il culminera dans cette réalisation de sa promesse. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Apprenons à vivre les bénédictions divines dans l'épreuve. Le soutien de Christ est l'entraide fraternelle. Je propose quelques instants de silence et puis je prierai.